Donc maintenant, nous allons écouter l'exposé de Jacob Schmutz, le tournant facultatif de la logique dans la scolastique française du XVIIe siècle. Donc Jacob Schmutz, spécialiste de la néo-scolastique et travaille en particulier sur le devenir des écoles et des traditions philosophiques chez les jésuites et à la période postérieure, au XVIe, XVIIe siècle. Et en particulier sur les cours scolastiques en général, les cours de logique en particulier.
Merci beaucoup pour cette introduction et merci à Julie pour avoir inspiré cette rencontre et aussi même pour l'ordre de passage. J'ai peur peut-être de vous ennuyer sur certains paragraphes de mon exposé, mais c'est bien parce que ça prouve que nous nous approchons de la vérité, puisque je vais répéter des choses qui ont été dites par mes prédécesseurs aujourd'hui. La logique, comme vous l'imaginez, n'est pas sortie indemne des grandes ruptures de la philosophie moderne. Alors que la logique médiévale était fondamentalement consacrée à l'étude des termes et des propositions et aux propriétés formelles des arguments, restreint principalement au syllogisme, la logique moderne, qui s'épanouit de Descartes à John Locke, s'intéresse prioritairement aux facultés de l'esprit et de façon croissante aux processus proprement psychologiques et physiologiques à l'œuvre dans le raisonnement. Ce tournant a été décrit comme la naissance d'une logique dite facultative, ce qui donne le titre à mon exposé, un terme qui a été mis à l'honneur par l'historien américain de la philosophie de Rutgers, James Boyckerode, dans un article classique intitulé « The Natural History of the Understanding » en 1984. Il peut être utile de rappeler les termes dans lesquels Boyckerode formulait ce tournant. « An understanding of man's cognitive capacities was taken to be fundamental to the development of those elements of logical theory which were retained from tradition. The theoretical task of identifying, discriminating, and analyzing the cognitive faculties and their operations came with this qualification to constitute the discipline of logic with the appearance of an essay concerning human understanding. The new logic includes much which we now want to conceive as epistemology and psychology. Selon cette nouvelle conception, ce sont dès lors en dernière instance les lois de la pensée qui dictent les lois de la logique, et non l'inverse, en l'occurrence, les lois de la logique qui dicteraient les lois de la pensée. Nous pourrions résumer cette évolution à travers le schéma suivant. Si nous nous interrogeons où se situent les lois de la logique, elles sont quelque part entre les trois sommets du triangle sémantique aristotélicien, c'est-à-dire les lois du langage, les lois de la pensée et les lois de la réalité. Le Moyen-Âge, dans son immense variété de positions sur la logique, a exploré toute une série de corrélations possibles, représentables par les flèches que vous voyez ici, et les grandes traditions se disputeront, au fond, sur le sens à donner à ces flèches. Le nominalisme médiéval s'intéresse avant tout aux relations entre langage et logique et pensée, et la tradition réaliste, quant à elle, s'interrogera sur l'isomorphisme entre la structure compositionnelle de la réalité, forme et matière, par exemple, ou substance et accident, et la forme compositionnelle des jugements. Quand avons-nous un tournant facultatif ? Eh bien, lorsqu'apparaît une flèche qui, à mon sens, n'existe pas au Moyen-Âge, c'est lorsque nous défendrons la thèse que ce sont en réalité les lois de la pensée, c'est-à-dire, en dernière instance, quelque chose qui, comme dit Boyckerode, relève de la psychologie, qui en réalité est la norme de ce qu'est la logique. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est essayer de donner une explication alternative de l'émergence de cette logique facultative, dont la genèse est généralement attribuée à l'influence conjointe de Descartes et de la logique de Port-Royal, et dont la forme scolaire la plus influente se trouverait finalement chez John Locke. Telle était du moins l'hypothèse de Boyckerode, et elle a été reprise et précisée dans une série de monographies importantes, je cite ici les plus importantes, Stephen Gaukroger, Paul Schurman, Hannah Dawson essentiellement, tous consacrés à la logique de tradition cartésienne et lockienne. Marcos Garbi, ici présent, est le seul à avoir proposé à ce jour une explication différente en insistant sur la transformation de la doctrine, transformation renaissante, de la doctrine aristotélicienne des habitus dans les corpus scolastiques modernes. Cette hypothèse me semble pertinente, en particulier pour le contexte allemand, où la hexilogia a effectivement permis d'accomplir ce déplacement de l'objet de la logique vers les facultés de l'âme. Je voudrais pour ma part tenter aujourd'hui une explication peut-être plus traditionnelle, en m'intéressant au contexte spécifiquement français, puisque c'est de France que vient le cartésianisme et la logique de Port-Royal. Or, par un examen attentif des cours de logique du début du XVIIe siècle, on peut montrer qu'il existe en réalité une préhistoire de cette vaste transformation. Je ne chercherai donc pas à infirmer la thèse d'un tournant facultatif, mais à en éclairer les conditions de possibilité par une étude plus rigoureuse du contexte. Cette même hypothèse a été formulée récemment par Roger Arieff, et je suis très content que Stephen Kusemans l'a rappelé tout à l'heure, dans un article de 2015 et dans d'autres travaux à paraître, qui affirme, je cite, que la logique élaborée par les cartésiens est simplement venue confirmer certains des développements de la logique scolastique du XVIIe siècle. Fin de la citation. Pour ce faire, il nous faut donc étudier les logiques scolastiques de la période 1550-1650, qui constituent le missing link, souvent négligé, entre les dernières logiques tardo-médiévales, qui constituaient le terminus ad quem des travaux de Jenny Ashworth ou encore de notre hôte Alain de Libera, et les nouvelles logiques facultatives post-cartésiennes ou post-lockiennes. Dans cet exposé, je privilégierai essentiellement les logiques nées dans le milieu scolastique français, ainsi que certaines de leurs sources ibériques et parfois italiennes, remontant à la fin du XVIe siècle. Je diviserai mon exposé en trois parties. Premièrement, je ferai quelques remarques méthodologiques sur mon corpus et montrerai que l'étude des cours manuscrits est essentielle pour appréhender correctement cette évolution, qui n'est souvent reflétée dans le corpus imprimé qu'avec un certain retard. Deuxièmement, je présenterai les termes du débat sur l'objet de la logique, qui figure généralement au début des cours scolastiques, dans lequel se négociera l'abandon progressif des conceptions médiévales. Troisièmement, enfin, je montrerai une conséquence inattendue, et jusqu'à présent peu étudiée, de cette transformation de l'objet de la logique sur la structure même de l'enseignement de la philosophie en général. De ce point de vue, la querelle moderne sur l'objet de la logique pourrait bien être le prélude à l'effondrement historique de la discipline, du moins en France, au moment de la restauration universitaire après la Révolution. D'abord, parlons donc du corpus. Pour une étude portant en particulier sur la France, il est essentiel de prendre en considération les cours de logique manuscrits qui correspondent dans 90% des cas à des notes de cours d'étudiants pris dans les collèges, couvents ou universités d'Ancien Régime. Dans le cadre d'un projet d'inventaire que je mène depuis une dizaine d'années, j'ai construit un catalogue de plus de 4000 manuscrits de tels cours, incluant l'ensemble de la philosophie et de la théologie, dont je voudrais extraire aujourd'hui quelques données pour l'histoire de la logique. Pourquoi utiliser les manuscrits ? Eh bien, tout simplement parce que les imprimés de logique français du XVIIe siècle restent peu nombreux et chronologiquement parfois très espacés. On ne voit malheureusement pas très bien ici. Un petit extrait ici de cet inventaire. J'ai classé les manuels de logique chronologiquement en grandes périodes en fonction des écoles, séculiers, vernaculaires, séculiers latins, protestants, jésuites, oratoriens, doctrinaires, dominicains, franciscains, et puis sur les pages suivantes, il y en a d'autres. Nous voyons quelques anomalies typiques. Par exemple, chez les jésuites, nous voyons que le premier cours complet de logique apparaît en 1651-1653. Il y en a avant, mais ce ne sont pas des cours français. Donc cela supposerait que les Français n'auraient pas produit de logique. Ils en ont évidemment produite, mais ce sont des logiques manuscrites qui ne sont pourtant pas nécessairement des copies des imprimés espagnols ou italiens. Autre anomalie, par exemple, pour les jésuites, une période particulièrement importante pour l'émergence de la logique facultative, pas une seule publication jésuite française à cette époque-là. On pourrait continuer la démonstration. Vous reconnaîtrez évidemment ici un certain nombre de noms, ceux qui sont connus de l'index scolastico-cartésien, les Abra de Raconis, les Abra de Raconis, les Scipion duplex, les Théophraste de Bouju et bien sûr Eustache de Saint-Paul. Alors, on sait évidemment aussi qu'en France furent utilisés un certain nombre de manuels imprimés venus d'autres pays et je les ai marqués ici en petits caractères. Si nous regardons maintenant la même chose pour les manuscrits, eh bien, ça change. Voilà un exemple de ce que ça donnerait pour les manuscrits. Si je prends simplement les cours de philosophie donc produits dans les collèges séculiers, par exemple les grands collèges de plein exercice de l'Université de Paris, vous avez en rouge les manuscrits et en noir les imprimés. Donc nous avons très peu d'imprimés et nous avons une masse de manuscrits, en particulier pour des périodes très importantes. Si nous regardons par exemple la chronologie cartésienne, les années 1637 à 1651, eh bien, le corpus manuscrit nous permet évidemment considérablement de compléter les quelques imprimés qui, comme je le disais pour des raisons matérielles, ont souvent aussi été publiés à la fin de la vie d'un auteur et donc sont souvent en retard par rapport à l'évolution réelle. C'est important de prendre cette tradition manuscrite pour l'exemple des jésuites que je vous ai indiqué tout à l'heure. Il n'y a pas de cours imprimé des jésuites avant, par exemple, Garnier 1651, ici à Clermont, au collège de Clermont à Paris. Regardez tout ce que nous avons en manuscrit auparavant, et bien sûr les imprimés étrangers. Pour la grande période de la fin du XVIIe, nous sommes obligés d'utiliser exclusivement des manuscrits pour voir l'évolution de l'enseignement. La même chose vaut pour d'autres ordres religieux. Pour certains, nous n'avons par exemple que des manuscrits. Prenez les Sulpiciens, un ordre très important au XVIIIe siècle en France. Nous ne pouvons pas étudier les Sulpiciens car ils n'ont jamais rien produit. Ils n'ont qu'une production manuscrite et pourtant ils ont été très influents pour le développement de la philosophie sous les Lumières. Dans la logique du XVIIe siècle français, nous faisons face donc dans cet immense tableau, nous pouvons extraire, généraliser disons, les données de ce tableau, nous faisons face à non pas une seule, mais à plusieurs traditions de la logique scolastique. Un simple coup d'œil jeté à la structure des cours de logique nous permet de nous en rendre compte, et je ferai ici un peu le même exercice que mon prédécesseur, et je retrouverai d'ailleurs les mêmes conclusions. Tous sont universellement divisés en trois parties, mais nous y trouvons au moins quatre vocabulaires différents. D'abord, dans le cas le plus classique, nous avons le modèle divisionnel adopté par les jésuites et qui le garderont longtemps. Je l'appelle classique parce qu'il adopte en fait la pratique tardo-médiévale, remontant jusqu'à la tradition alexandrine et à l'aristotélisme arabe, consistant à composer le cours de logique en fonction des livres de l'organon, définis à partir de leur objet formel propre, catégorie périhirménéas et analytique, en particulier les seconds consacrés à la résolutio. En France, on la trouve par exemple ainsi enseignée au collège de Clermont, donc le collège des jésuites Louis le Grand, qui s'appellera ensuite Louis le Grand, par l'un de ces nombreux jésuites étrangers qui en formaient le premier corps enseignant, Girolamo Dandini, dans une logique manuscrite de 1582. Deuxièmement, nous avons une tradition qui remonte plutôt à une tradition que je qualifierais de scolastique et humaniste, concevant avant tout la logique comme un modus dicerendi et lui préférant d'ailleurs souvent le nom de dialectica, même si nombre d'auteurs insistent sur la parfaite équivalence des deux termes, de logique et de dialectique. Le modus dicerendi est le procédé qui nous conduit du connu vers l'inconnu, une caractérisation qui fait de la logique un outil d'instruction et de découverte, raison pour laquelle je la qualifie ici de scolastique humaniste, et qui est d'ailleurs aussi encore mise à l'honneur par les Conimbritenses et qui aura une postérité jusque Port-Royal. Les trois parties sont alors les trois modes de construction d'un raisonnement que sont la définition, la division et enfin l'argumentation. À titre d'exemple, je peux citer ici le cas du carme provençal Philibert Feuzet dans sa logique enseignée au Collège Royal d'Aix-en-Provence et qui est connu pour avoir été le maître de Gassendi. Une troisième tradition, que j'oserais ensuite qualifier de dominante, est celle qui marque les prémices, en tout cas, du tournant facultatif, en se focalisant cette fois-ci, comme l'a aussi très bien rappelé Stephen Kuzemans tout à l'heure, en se focalisant désormais sur les operationes mentis, les opérations de l'esprit. Roger Arieff a soutenu que le premier à avoir popularisé cette approche était le feuillant français Eustache de Saint-Paul dans sa fameuse Summa Philosophica Quadripartita, qui connut de fait un grand succès éditorial pendant la première moitié du XVIIe siècle. Il s'agit véritablement d'un acte de rupture, car il ne s'agit pas ici de s'interroger sur les composants formels, termes ou propositions, ni sur les instruments du savoir, définition, division, mais bien sur les actes de l'esprit eux-mêmes, exprimés par la tripartition apprehensio, parfois aussi appelée intuitus, puis judicium, puis discursus ou ratiocinatio. Enfin, une quatrième et dernière tradition qui ne s'impose qu'à la fin du XVIIe siècle semble en continuité avec cette dernière, mais renomme le premier acte plutôt idea, au lieu de apprehensio ou perceptio. C'est bien là l'acte de naissance de la fameuse Logic of Ideas qui dominera ensuite effectivement tout le XVIIIe siècle. Que nous enseigne cette brève comparaison au-delà de l'existence d'un pluralisme doctrinal ? Au niveau des matières traitées, on voit que la première, par exemple, intègre une réflexion sur les secondes intentions, concepts abstraits, universaux, êtres de raison, qui sont aussi objets de la métaphysique, et ce qui expliquera la présence d'objets logiques dans la métaphysique d'un Suarez, par exemple, et que l'on trouve aussi dans la quatrième avec l'intégration dans la logique de questions telles que l'existence des degrés métaphysiques. En revanche, on voit clairement que la troisième et la quatrième tradition se focalisent plutôt sur l'activité de l'esprit lui-même, exprimée par les termes operatio ou actio. Ce corpus nous permettrait alors de déterminer la naissance du court tournant facultatif à partir du moment où l'on parviendrait à démontrer qu'historiquement la troisième et quatrième traditions sont devenues dominantes. C'est donc aux conditions d'émergence de cette conception de la logique comme portant en priorité sur les opérations de l'esprit que je vais m'atteler à présent dans une seconde partie de mon exposé. La discussion sur l'objet propre de la logique fait partie des préliminaires que l'on retrouve dans pratiquement tous les manuels, manuscrits comme imprimés. On peut y observer des divergences considérables qui prennent parfois la forme typique des combats scolastiques, parfois sanglants. On y trouve aussi une tentative de systématisation historique du passé médiéval. Dans les manuels de la fin du XVIe siècle, on distingue ainsi communément cinq déterminations possibles de l'objet premier de la logique, que je résumerai de la manière suivante. Nous avons les mots, voces, la logique comme scientia sermocinalis, l'argumentation, le modus sciendi, le syllogisme, et enfin les intentions secondes et êtres de raison. Chacune est rapportée à, généralement, une école particulière, le plus souvent, respectivement, aux nominalistes, à Albert le Grand, à Averroès, Kilwardby, et à une tradition que j'appelle, moi, l'averroïsme de Salamanque, une tradition espagnole du XVe siècle, très méconnue, et enfin, les scotistes. La position qui est d'une certaine manière dominante et qui sera représentée par la tradition thomiste qui monte institutionnellement en puissance et avec des références à Avicenne sera enfin cette dernière qui assigne à la logique son objet propre que sont les intentions secondes et les êtres de raison. Je vous rappelle ici les autorités classiques pour la position thomiste, la fameuse phrase de l'Avicenne latin qui affirme que le sujet propre de la logique sont les intentions intelligées en second lieu, les intentions secondes, qui sont complémentées ou apposées aux intentions premières, et le fameux énoncé de Thomas dans son commentaire à la métaphysique que l'être de raison est à proprement parler le sujet de la logique. L'école dominicaine, thomiste française du XVIIe siècle, enfonce le clou et rappelle que ceci est bien le propre de la tradition thomiste moderne. Cependant, il est important de rappeler que l'école thomiste moderne a justement introduit une division importante dans la détermination de ce fameux ens rationis, que l'on peut déjà observer dans les commentaires du dominicain espagnol Domingo de Soto, ou bien du jésuite également d'origine espagnole Antonio Rubio, 1603, tous les deux largement utilisés en France. L'être de raison est classiquement défini comme un concept objectif, c'est-à-dire comme une condition dans les choses qui leur est attribuée par l'intermédiaire de l'opération de l'intellect et qui constitue donc une relation extrinsèque. C'est le cas pour les espèces, les genres, les universaux et les catégories qui existent extramentalement mais qui ne s'actualisent que par l'opération de l'intellect et qui constituent dès lors, pour cette tradition, l'objet propre de la première partie de la logique. Cette position, dit Rubio, est représentée par Antiqui Fere Omnes, par pratiquement tous les auteurs anciens de notre tradition. En revanche, il y a une nouvelle détermination possible par Plures Huius Temporis Doctores, c'est-à-dire par un grand nombre de docteurs de notre époque, des auteurs récents, qui déterminent l'être de raison de manière différente. En l'occurrence, comme un concept, cette fois-ci non pas objectif, mais formel, c'est-à-dire comme une production de l'intellect en lui-même. Dans ce cas, pris subjectivement et du point de vue de son effectuation, on peut dire que l'être de raison est un actus rationis ou une operatio intellectus, et non un objet de celui-ci. Parmi ces opérations, on peut alors ranger d'autres objets classiques de la logique qui décrivent l'action de l'intellect, à savoir les définitions division et syllogisme. Laquelle de ces deux déterminations de l'être de raison convient-il de privilégier pour déterminer l'objet propre de la logique ? Ici, les auteurs divergent. Domingo de Soto affirme, conformément à la tradition, que la logique porte bien là-dessus, c'est-à-dire sur les êtres de raison en tant que concept objectif. Cette première tradition réaliste donnera toutefois encore lieu à des subdivisions ultérieures, en raison des différentes manières qu'il y a de comprendre l'être de raison pris comme relation à l'intellect ou dénomination extrinsèque. La tradition dominante, y compris en milieu dominicain français, considérera l'objet de la logique comme les concepts abstraits en acte par l'entremise de l'esprit humain. Une tradition plus minoritaire, ultra-réaliste, éliminera la relation de connaissance dans la définition et considère alors les êtres de raison comme les lois de la logique indépendantes de l'esprit. Face à cette détermination qui a valu à la tradition dominicaine son appellation de réaliste, un jésuite comme Rubio, une génération plus tard, affirme donc que la logique porte aussi sur les êtres de raison du point de vue subjectif, c'est-à-dire comme opération de l'esprit. Et là aussi, on pourra distinguer entre deux tendances en fonction de deux manières de comprendre le concept formel, l'acte de l'esprit, tantôt comme identifié parfaitement, comme le firent les nominalistes, à l'acte de la connaissance, tantôt comme une représentation mentale des choses. Je vais supposer à présent que c'est dans cette détermination plus large de l'être de raison, pris à la fois objectivement et subjectivement, que l'on trouve les conditions de possibilité de la naissance du tournant facultatif. Ce dernier sera définitivement accompli à partir du moment où l'on éliminera en fait cette position comme étant une manière erronée de concevoir la logique au profit de cette conception qui poussera évidemment la logique vers le camp de la psychologie. Il est facile de s'en apercevoir si l'on regarde le jugement dans les cours de logique de l'époque à propos de la route à suivre. Domingo de Soto dit très clairement que la logique ne s'intéresse pas à ceci, mais oui à cela. Rubio, en bon jésuite, 50-50, dit qu'on peut s'intéresser aux deux. Mais si l'on regarde les cours de philosophie français de la période 1630-1640 et au-delà, et ici je prends un témoin tardif, l'oratorien ou ex-oratorien Jean-Baptiste Duhamel, il dit « Non, la logique n'a rien à voir avec ça, la logique ce n'est que ça ». Il est bien entendu difficile de dater avec précision l'apparition de cette conception excluant la partie inférieure de mon tableau, encore revendiquée par Rubio, et en se restreignant sur la partie subjective, supérieure, formelle, de ce tableau. Donc la restriction de la logique aux opérations de l'esprit, comme justement Eustache de Saint-Paul le proposera lui-même. Alors, comme l'a rappelé encore une fois Stephen Kosemans, il est peut-être difficile de savoir qui a été le premier à le faire. Assurément, il y a eu déjà le petit manuel de Francisco de Toledo, 1561, premier manuel de logique imprimé par un jésuite, qui a eu certainement un rôle important, notamment en raison de sa postérité française et italienne. Robert Balfour, maître écossais du Collège de Guyenne à Bordeaux, dit par exemple de Toledo qu'il ne connaît personne possédant meilleur jugement et l'utilise abondamment dans ses leçons. Toledo affirme, contrairement à son maître Soto, que l'objet de la prochain de la logique sont bien les operationes mentis. Le dominicain italien Ludovico Carbo, qui compose des adimenta à Toledo, essaye de justifier la même thèse en s'appuyant évidemment sur l'autorité de Thomas d'Aquin et les quelques textes où Thomas parle justement de l'actus rationis comme étant l'une des parties égales de la logique, en plus des êtres de raison eux-mêmes pris en eux-mêmes. Dans le milieu scolaire parisien, bien avant la publication du cours d'Eustache de Saint-Paul, qui consacre aussi cette conception, on trouve en réalité un certain nombre de logiques enseignées très explicitement selon ce même programme, par exemple celui d'un certain Guillaume Mouret, dicté au Collège des Grassins en 1594 et conservé dans un manuscrit bordelais. Mouret explique que la logique porte sur les actiones, operationes mentis, et emploie même le terme, probablement issu de la tradition médicale et peu utilisé jusqu'alors, des functiones mentis. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion de ce colloque pour lancer un appel à l'aide et vous demander d'où vient exactement ce vocabulaire latin de la functio mentis qui se propagera ensuite, en particulier dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L'assignation des trois operationes mentis comme objet propre de la logique est alors progressivement un lieu commun scolaire en France que l'on retrouve chez une multitude d'auteurs, principalement issus de la scolastique séculière. Mais elle finit également par gagner plusieurs écoles régulières, en particulier les jésuites. Seuls les dominicains résistent. Le maître de toute une génération, Antoine Goudin, encore très influent dans la néoscolastique réaliste du XIXe siècle, attaque ainsi dûment la sententia quorundam recensiorum quitenent tres mentis operationes esse objectum logicae, et leur oppose la doctrine orthodoxe de l'ens rationis indépendant de l'esprit en soi et connaissable pour nous. Pierre de Saint-Joseph, 1651, le successeur de Stage de Saint-Paul chez les feuillants parisiens, a proposé une belle analogie pour résumer ce débat. La logique étant un art, il en va dans la détermination de son objet comme de la peinture. Il faut en premier lieu s'intéresser à l'action du peintre, qui correspond, pour la logique, aux opérations de l'esprit. Ceux qui estiment que l'objet de la logique serait le modus sciendi, tradition humaniste toujours vivante, confondent l'objet et l'instrument, ce qui est aussi absurde que d'affirmer que l'objet de la peinture serait le pinceau. 10 ans plus tard, la logique de Port-Royal allait exprimer une idée très similaire dans les termes bien connus suivants. C'est la définition célèbre. La logique est l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour s'instruire soi-même que pour en instruire les autres. Cet art consiste dans les réflexions que les hommes ont sur les 4 principales opérations de l'esprit. Nous retrouvons le vocabulaire « concevoir, juger, raisonner » et ordonner, 4e partie sur laquelle je ne reviens pas ici. La logique n'est alors plus une réflexion sur les êtres de raison ou les secondes intentions, mais aura pour effet, comme le dit encore la logique de Port-Royal dans la 3e détermination ici, de mieux connaître la nature de notre esprit par les réflexions que nous faisons sur ses actions. La logique entre progressivement dans le champ de la psychologie. Jean-Baptiste Duhamel, ex-oratorien et premier secrétaire de l'Académie des sciences, résume admirablement cette évolution dans la logique de sa propre Philosophia Burgundica. L'objet et la fin de la logique n'est pas à chercher dans les choses connues, comme le veulent les thomistes, mais dans les actes eux-mêmes de l'esprit, dont la logique étudie la formation et le perfectionnement, au même titre que la philosophie morale perfectionne et dirige les actes de la volonté. Nous pouvons à présent résumer les acquis de ce débat sur l'objet de la logique qui traverse la scolastique française du XVIIe siècle. Nous voyons dans le tableau suivant que la tripartition, au fond, est conservée à travers tout l'Ancien Régime, la présentation d'un cours de logique en 3 parties, à laquelle se rajoute, je le reconnais, la question de la méthode, surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Nous voyons le passage progressif de la conception encore formelle des auteurs tardo-médiévaux et renaissants, insistant sur le terme, la proposition et l'argumentation, définition, division et argumentation, vers progressivement un vocabulaire qui sera un vocabulaire beaucoup plus psychologique, idée, jugement, raisonnement, et puis la reprise de ceci dans les logiques latines de toute la seconde partie du XVIIe et de la première partie du XVIIIe siècle. Globalement, nous voyons un passage de l'intérêt tardo-médiéval pour la forme logique vers l'intérêt spécifiquement moderne sur les processus mentaux et psychiques. Une conclusion intermédiaire avant de passer à la dernière partie de mon exposé. Premièrement, nous assistons donc à un déclin progressif des discussions de type logico-métaphysique sur l'être connu, l'esse cognitum, le statut ontologique des universaux ou des catégories, si elles dépendent ou non de l'esprit, et ainsi de suite. La logique n'est plus une cousine de la métaphysique, du moins, elle n'est plus la cousine d'une métaphysique entendue comme ontologie. Elle sera bientôt la cousine d'une nouvelle métaphysique entendue comme pneumatologie ou psychologie. Deuxièmement, en abandonnant ces questions ontologiques, la logique rentre progressivement dans le champ de ce que nous appellerions donc aujourd'hui de la psychologie, c'est-à-dire l'étude des processus mentaux dans la formation des idées et des jugements, y compris avec une prise en compte, par exemple, du rôle de la volonté dans la formation de l'assentiment. C'est ce qui explique l'intérêt croissant pour les functiones mentis qui nous conduisent à acquérir une connaissance, que ce soit dans le raisonnement et la communication de celui-ci à autrui, mais aussi de manière purement internaliste, par les actes internes, la conscience de soi, le sens intime, le cogito, autant de problématiques qui rentrent désormais dans le champ propre des manuels de logique scolastique tardive, très tardive, et font l'objet de développements plus ou moins importants. Si l'on observe le terminus ad quem de mon tableau initial, on voit en effet que la principale nouveauté des logiques de la fin du XVIIe siècle, comme celle de l'école de Pourchaud, dont nous avons un nombre considérable de manuscrits, est un nouveau vocabulaire issu de la tradition cartésienne pour désigner la première opération de l'esprit, l'idée, et non plus l'appréhension, comme chez les auteurs antérieurs. La logique est alors science des cogitationes mentis ou encore des functiones mentis, articulée autour de l'idée comme première opération. Dans une troisième et dernière partie, je voudrais à présent montrer brièvement comment ce tournant facultatif se reflète également dans la transformation du curriculum philosophique dans son ensemble et donc dans la définition même de l'activité de la philosophie. J'avais commencé tout à l'heure ma comparaison de la structure des cours de logique avec le modèle aristotélicien traditionnel, qui remontait, comme je l'ai rappelé, à la tradition alexandrine et arabe de classification des œuvres du stagirite. Cela vaut pour le cours de logique lui-même, mais aussi pour l'enseignement du cours de philosophie scolastique dans son ensemble. Un curriculum de philosophie scolastique d'Ancien Régime, il en a été question également tout à l'heure, durait en général en France 2 ans, 3 au début chez les jésuites, et comprenait 4 parties qui, au XVIe siècle, étaient presque uniformément enseignées dans l'ordre suivant: logique, physique, métaphysique, éthique. Cet ordre classique se fondait sur la distinction entre sciences spéculatives et sciences pratiques, livre 6 de la métaphysique d'Aristote, les premières étant antérieures aux secondes car leur objet est plus universel et éloigné des sens. Et au sein des sciences spéculatives, on traitait d'abord de la physique, dont l'objet est plus matériel et plus proche des sens, que de celui de la métaphysique, qui est immatériel et indépendant des sens. La logique, comme organon, précède l'ensemble. Cet ordre aristotélicien a largement perduré dans plusieurs systèmes d'enseignement, en particulier chez les jésuites de l'époque moderne et chez d'autres ordres réguliers. Il perdurera aussi très longuement encore en Espagne et en Italie. Il a toutefois été modifié subtilement en intervertissant parfois éthique et métaphysique, par exemple chez le dominicain Goudin. Mais ce n'est pas important pour nous ici. Je voudrais soumettre ici l'hypothèse que la première modification substantielle de cet ordre pluriséculaire d'enseignement se produit justement pour la première fois en France au début du XVIIe siècle et seulement plus tardivement dans d'autres contextes scolastiques, en tout cas dans les pays catholiques, et que ceci est bien lié à la nouvelle conception des operationes mentis comme objet de la logique. À partir du début du XVIIe siècle, on voit apparaître un ordre qui fait commencer le cours par un premier couple que sont la logique et l'éthique, cette fois-ci, suivi par un deuxième couple composé de la physique et de la métaphysique. Le critère de distinction ici n'est plus aristotélicien, mais je le qualifierais de néo-stoïcien, car systématiquement fondé sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, ta efhemin, ta ouk efhemin. Or, cela n'était justement pas possible dans la conception objective traditionnelle de la logique, puisque si les intentions secondes dépendent certainement de notre opération intellective pour être connues, leur contenu conceptuel ne s'épuise pas dans leur être connu. En revanche, si l'on adopte une conception facultative de la logique, alors les actes de l'esprit sont bien, au même titre que les actes de la volonté, dépendant de nous. C'est assurément l'une des originalités du cours de stage de Saint-Paul que d'avoir été l'un des premiers à proposer un tel ordre et à le justifier dans des termes très néo-stoïciens, en continuité avec ce puissant mouvement stoïcien qui existait en France au XVIe siècle. Eustache écrit « Les actions de l'esprit, en tant qu'elles peuvent être dirigées en vue de la connaissance du vrai, conformément au meilleur mode de connaissance, sont le sujet de la dialectique. » De la même manière, les actions de la volonté, en tant qu'elles peuvent être dirigées en vue de la meilleure fin de la vie, conformément au jugement de la droite raison. Cette classification est adoptée par une grande quantité d'auteurs français du XVIIe siècle, parmi lesquels on trouve justement tous ceux qui défendent la conception facultative de la logique, surtout dans le milieu des collèges de plein exercice parisiens ou bordelais. Comme le révèlent de nombreux cours manuscrits des années 1620 à 1640, je pourrais citer ici ceux de Sébastien Saint-Martin au Collège de Navarre, ou de Jacques Desperriers au collège de Lisieux en 1648. Ce dernier fut le maître de Pierre Cally, qui explique dans ses manuels que la philosophie est désormais recensio ribus hoc ordine vulgo tractate, c'est-à-dire que les auteurs récents ont désormais adopté cette nouvelle manière de traiter de la philosophie. L'expression « logique facultative » proposée naguère par Beuckerode trouve ici vraiment tout son sens, puisque le jésuite normand Pierre Gautruche, autre adepte de cette nouvelle division, fait précéder ses premières parties, consacrées à la logique et à l'éthique, d'une brève introduction sur les facultés et opérations de l'âme. Enfin, il n'est guère surprenant que le jeune Antoine Arnauld adopte également cet ordre dans ses thèses du Collège du Mans en 1641. Une troisième modification de l'ordre traditionnel intervient alors principalement dans la seconde moitié du XVIIe siècle et prend acte de la disparition des objets de la métaphysique traditionnelle dont j'ai parlé plus haut. C'est désormais la métaphysique qui s'insère entre la logique et l'éthique comme une sorte d'appendice à la logique. Metaphysica nostra, quae est veluti supplementum quodam logicae, écrit Pierre de Saint-Joseph, l'un des premiers à populariser cette classification dans un manuel imprimé. Des arguments de nature plus précisément cognitive et épistémologique vont être avancés à la fin du siècle, et cela est peut-être bien le propre du cercle qui se constitue autour de Edmond Pourchaud ou de Guillaume d'Agoumer, qui consacre définitivement un tournant mentaliste et psychologiste à de la métaphysique et de la logique. C'est précisément parce que la métaphysique ne traite plus d'entités abstraites en soi, mais seulement des premières notions et idées des choses, qu'il faut désormais l'intégrer comme un supplément à la logique et en faire finalement la première partie commune du cours, logique et métaphysique confondues. Cette pratique finit par se généraliser quasiment totalement dans l'enseignement français du XVIIIe siècle, presque toutes écoles confondues, que ce soit dans les collèges de plein exercice comme dans les séminaires, et même les jésuites et les autres ordres religieux finiront par l'adopter. Plus radical, enfin, il y a une quatrième et dernière façon d'ordonner le corpus, faire tout commencer par la métaphysique, considérée comme la racine de toutes les sciences, selon une image que vous connaissez bien, qui remonte à Bacon. Mais cette métaphysique est évidemment une métaphysique totalement redéfinie, non plus comme une science de l'être en tant qu'être et de ses propriétés, mais comme une science de la connaissance de notre âme. Cette suppression de la logique au profit d'une sorte de métaphysique générale s'accomplit dans une série de productions éditoriales, notamment chez le premier cartésien Jacques Durour, dans son abrégé de la vraie philosophie, qui fonde sa division de la philosophie sur une distinction des habitus de l'esprit. Elle ne semble toutefois pas avoir été beaucoup enseignée en ce sens dans les collèges, même si durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc quelques décennies avant la Révolution, de plus en plus de voix se font entendre pour défendre une telle réorganisation du corpus philosophique. J'en viens à ma conclusion. L'effet des réorganisations successives du curriculum philosophique dans les collèges d'Ancien Régime, de la réorganisation successive du curriculum philosophique dans les collèges d'Ancien Régime est bien évidemment la disparition totale des questions traditionnelles de la logique scolastique et la naturalisation croissante de l'âme humaine. Fini les questions sur les catégories, adieu les êtres de raison, à mort les précisions objectives et les distinctions formelles. Elles ne valent pas mieux que toutes les chimères de la métaphysique scolastique que les professeurs continuent d'inclure dans leurs discussions, peut-être dans un effort d'autodérision. On comprend mieux les réquisitoires des philosophes de la Lumière. La logique devint l'une des parties de la philosophie scolastique qu'on méprisa le plus, écrit par exemple le marquis d'Argens dans sa philosophie du bon sens. La logique d'origine médiévale, consacrée aux termes, aux propositions et aux arguments, a désormais disparu au profit d'une métaphysique nouvelle qui a pour objet la connaissance immédiate de notre âme, ainsi que la formation de nos idées, comme l'écrit l'un des rédacteurs du Dictionnaire universel et raisonné de métaphysique, logique et morale. Je vous prie de bien noter l'ordre du titre. L'opérateur de cette transformation, comme j'ai tenté de le montrer, a été la réduction progressive de la logique à une étude des opérations de l'esprit. Cette histoire est une histoire très spécifiquement française, car il n'existe sans doute aucun autre pays d'Europe où l'effondrement de l'enseignement de la logique au sens traditionnel aura été aussi total. les encyclopédistes recommandaient de l'achever. Il y a plus à retrancher dans la logique qu'on ne saurait y ajouter, écrit Louis de Jaucourt, le rédacteur de l'article Étude de l'encyclopédie de Diderot. Le coup de grâce sera donné avec la loi de 1791 supprimant les collèges et universités d'Ancien Régime, dans lesquels les derniers pourchotistes faisaient encore survivre quelques questions sur le statut ontologique des universaux ou des catégories comme objet de nos cogitations. Sous la Restauration, le principal souci des réformateurs de l'enseignement sera d'éviter la résurrection des chimères scolastiques, et on se gardera bien de restaurer un enseignement de la logique. Je voudrais, à ce titre, donner le mot de la fin de mon histoire à un réformateur aujourd'hui largement oublié, Georges Gabriel Moget, qui écrit en 1818 un rapport intitulé « Vue sur l'enseignement de la philosophie », dans lequel on peut lire la chose suivante. Il conviendrait, pour la distribution des matières, de suivre la division ancienne en logique, métaphysique et morale, avec un seul changement, qui consiste à placer la métaphysique avant la logique, c'est-à-dire l'étude des facultés de l'âme avant la science qui nous apprend à diriger ces facultés. Cette disposition des parties du cours avait été entrevue dans l'ancienne Université de Paris. Moget était bien informé. En effet, comme on l'a vu, le tournant facultatif avait permis cette identification progressive entre la logique et la métaphysique, cette dernière définie désormais comme une science des facultés de l'âme et la logique comme simplement la manière de faire travailler ces facultés. Et il ajoute, Moget toujours, que la logique elle-même ne peut se comprendre sans une étude des facultés, c'est-à-dire qu'elle se réduit ultimement à un abrégé de psychologie. Enfin, si l'on veut examiner les meilleurs traités de logique, on verra qu'ils ne sont intelligibles que parce qu'ils contiennent comme préliminaire des notions élémentaires sur les opérations et les facultés de l'âme, c'est-à-dire un abrégé de psychologie. C'est sous cette forme que sera restauré en France l'enseignement de la philosophie au XIXe siècle. Vous comprenez sans doute maintenant pourquoi l'une des plus vénérables revues philosophiques de notre pays s'intitule « La revue de métaphysique et de morale ». Il n'y a plus de logique dans son titre. Et cela explique aussi encore pourquoi, dans « Ma chère Sorbonne », on trouvera des chaires de métaphysique et de psychologie et les manuels correspondants, comme ceux, certes bien oubliés aujourd'hui, de Paul Janet, Jules Lachelier ou encore, hommage à la période suisse d'Alain de Libera, du Genevois Théodore Flournoy, qui pousse l'étude des opérations de l'esprit jusqu'aux limites du spiritisme et de la parapsychologie. Et cela explique enfin encore pourquoi, aujourd'hui, dans mon université, un étudiant peut obtenir une maîtrise de philosophie en 5 ans avec pour tout 30 heures de logique obligatoire en première année. Il y en a plus potentiellement, mais ce sont des options. Arrivé à ce point de mon exposé, Thomas d'Aquin doit certainement se retourner dans sa tombe. S'il songeait un instant que la lente dérive de la logique vers la psychologie a largement été faite en son nom par ses interprètes du XVIIe siècle. La destruction de la logique est ainsi définitivement achevée en France et elle ne pourra revenir que par le détour de l'étranger ou par la voie du médiévisme philosophique qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie.